L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une édition spéciale de l'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est Audrey Yetnachiko, une icône camerounaise qui a réussi non seulement à se faire un nom dans un domaine encore dominé par les hommes, mais aussi à contribuer fortement au lancement de l'industrie métallurgique de haute précision dans son pays. Son entreprise MSMI est devenue le leader de l'industrie de la fabrication mécanique et de la maintenance industrielle au Cameroun, primée plusieurs fois à l'échelle internationale. Avec elle, nous allons parler de l'actualité politique, économique et géopolitique du continent africain. Nous aborderons également la coopération entre le Cameroun et la Russie à l'aune du sommet et du Forum économique Russie-Afrique prévu pour fin juillet de cette année. Tous les développements et analyses concernant ces sujets imbriqués dans quelques instants. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Spoutnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité est aujourd'hui Audrey Yetnachiko, chef d'entreprise camerounaise en industrie mécanique de précision. Madame Chico, bonjour et merci de nous avoir honorés dans nos studios, encore une fois, pour un entretien.
Bonjour Kamal, merci surtout à vous de m'avoir invité et surtout sur des sujets aussi pointus.
Je vous en prie. Donc, ma première question, les sanctions anti-russes occidentales, notamment depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, ont provoqué un effet boomerang suite aux décisions ou aux contre-mesures russes, notamment l'inflation, l'augmentation des prix des engrais, de l'énergie. Votre entreprise qui est engagée dans plusieurs secteurs de l'industrie, comment vit-elle cette situation?
Disons que moi, mon entreprise, on n'a pas trop de problèmes parce qu'on a eu l'effet d'anticipation. Moi, j'ai eu l'effet d'anticipation. Sauf que en réalité, c'est nous qui devions être très impactés parce que la fabrication mécanique et la métallurgie, de manière générale, est impactée à travers tout ce qui est métaux. Et quand on parle des métaux, on sait évidemment qu'il y a le tout ce qui est pétrolier, oil and gas. Et à partir de là, ça impacte sur tous les autres secteurs parce que l'inflation est énorme. Elle est multipliée par 10. Mmh. Mais maintenant, quand on vit la géopolitique internationale depuis 15 ans, comme j'ai eu à l'esprit d'anticiper et de me tourner vers la Russie, on en souffre moins parce que j'ai beaucoup de partenaires russes. Mmh. Et donc, du coup, moi, à mon niveau, ça me permet d'alléger les autres secteurs. Mais en réalité, mes autres confrères ne peuvent pas. Il y en a beaucoup qui sont en train de fermer, ça je vous le garantis. Et la saignée risque d'être encore plus dure si les pays africains ne prennent pas le taureau par les cornes.
Justement, je voulais vous poser encore pour approfondir cette question et vous demander que, par rapport à toutes les industriels que vous connaissez, pas uniquement au Cameroun, mais dans toute la région ou la sous-région, comment essaye-t-il de faire face à la situation actuelle?
Disons que beaucoup n'ont pas encore compris. En fait, c'est ça le problème du patronat africain. Beaucoup n'ont pas encore compris que la géopolitique mondiale a changé radicalement et qu'il faut absolument peut-être pas tourner le dos totalement au système occidental qui nous asphyxie en réalité, parce que ces sanctions-là, plus elles asphyxient l'Occident, plus elles nous asphyxient. Donc, tant que le patronat africain va continuer à soutenir ces sanctions, parce que en continuant à attendre de passer des commandes de l'autre côté, de l'Occident, on soutient ces sanctions et on en est les premiers à supporter les dégâts. Et les populations en masse, on n'y pense pas, nous, les patrons. C'est le patronat africain qui devra apporter les changements. Ce n'est pas le politique. Le politique n'y arrive pas. On comprend, ils sont tenus par tout ce qu'on a signé il y a 50, 60 ans. Mais nous, les hommes d'affaires, le secteur privé en particulier, nous devons mettre l'accent là-dessus et dire stop, nous nous tournons vers les BRICS. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir équilibrer. C'est nous, en réalité, nous tenons la clé en Afrique. La clé est en Afrique actuellement. Mais maintenant, de quel côté nous allons mettre la balle? Toute la question est là.
D'accord. Et juste pour rebondir sur ce que vous venez de développer, les Occidentaux, notamment les Américains, depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, ils exercent des pressions énormes sur tous les pays du monde pour qu'ils ne collaborent pas avec la Russie, mais en particulier avec l'Afrique, qui dépend beaucoup de leurs économies, qui dépend du système financier occidental. Alors, Monsieur Lavrov a qualifié ça d'attitude coloniale habituelle de l'Occident qui vit aux dépens des autres et qui applique les sanctions sans se soucier de l'avenir des gens. Alors, la question, c'est comment voyez-vous cette situation et comment elle est vécue en Afrique? Est-ce que les Africains se laissent aller justement dans cet élan ou, disons les choses comme elles sont, un peu de soumission aux politiques occidentales?
Disons que moi particulièrement, moi en tant qu'industrielle camerounaise, je suis très fière. Beaucoup de gens ont l'habitude de critiquer la durabilité au pouvoir de nos chefs d'État, principalement le nôtre, le mien. Mais je vais revenir à sa façon de répondre à l'Occident, aussi bien en France qu'aux États-Unis. En France, il leur a dit « Vous êtes en retard sur ce que vous nous demandez, parce que nous sommes en affaire depuis très longtemps avec la Russie. Donc, vous êtes en retard. » Là, c'était clair pour eux. Et puis, arrivé aux États-Unis, tout le monde a pensé que, voilà, il a joué donc au grand-père qui est totalement débile. Et pourtant, de retour, il a pris des mesures tranchantes et radicales. Je pense que les chefs d'État africains sont en train de comprendre aujourd'hui qu'il est temps pour eux de montrer que la soumission s'est terminée. Ils ne vont pas passer à une nouvelle génération, parce que nous, la nôtre, nous avons aussi vécu cette soumission. Nous nous sommes rebellés. On ne va pas passer cette soumission à la prochaine génération. Alors, s'ils ne réagissent pas de la façon dont la population l'attend, c'est la population qui va réagir. Et à ce moment-là, ce sera un effet boomerang que l'Europe et les États-Unis n'attendent pas. Aujourd'hui, franchement, j'ai toujours dit, ils vivent aux dépens des autres, mais c'est eux qui pensent qu'ils doivent diriger le monde. C'est quand même aberrant qu'en 2023, ils n'aient pas encore compris que c'est dépassé. Ils n'ont plus les technologies avancées comme ils le pensaient avant. Aujourd'hui, les technologies avancées sont plus du côté des pays qui dirigent le monde aujourd'hui, il faut le dire. C'est les pays des BRICS. Et beaucoup plus de pays sont en train de s'engouffrer de plus en plus. Et les chefs d'État n'auront pas de choix à partir de 2025, de toutes les façons, parce que ce sera où ça, où ils partent. Les populations vont mettre la pression parce que ce sont les populations qui vivent le quotidien dur de ces répressions. Aujourd'hui, par exemple, un pays, pratiquement 50% des pays africains passent leur commande d'engrais en Russie. Mmh. Alors, ils ont essayé de détourner, c'est quand même une aberration de détourner 98 bateaux sur 100 vers l'Europe qui étaient destinés à l'Afrique, mais eux qui sont si bons. Alors, pourquoi ils ont eu besoin de détourner 98 bateaux? Nous, les Africains, nous nous posons la question. Et je dis bien, on a des jeunes, on a les femmes, il faut faire attention, ils sont en train de retomber dans ce qu'ils ont fait lors de la guerre froide avec la Russie, Ce sont les jeunes et les femmes qui ont tenu le choc et c'est ce que nous allons faire en Afrique.
Justement, pour un peu faire la lumière sur toute l'image justement que l'opération spéciale russe en Ukraine, dans la lignée de ce que vous venez de développer, après le 24 février, et hop, le monde entier découvre qu'en fait, la nourriture de l'Occident dépend de la Russie, son énergie dépend de la Russie, son agriculture dépend de la Russie, et l'on se demande effectivement pourquoi ce statut-là de dominateur dans le monde, du moment que ce secteur-là de la planète n'est même pas capable de se nourrir. S'ils ne prennent pas le blé de la Russie ou de l'Ukraine, ils vont avoir d'ailleurs, comme vous voulez dire, ils ont détourné la majorité des bateaux. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un peu ça aussi qui a donné le courage aux chefs d'État africains de voter, ou au moins de voter contre, ou au moins de s'abstenir de voter contre la Russie lors du vote au Conseil de sécurité, où 54 chefs d'État n'ont pas accepté de voter la résolution proposée sanctionnant la Russie après le début de l'opération?
Non, je pense que c'est pas... Bon, ça c'est un détail. Hein. Ça, c'est un détail parce que pour nous, ça fait déjà un moment que nous avons compris. Ils dépendent de nous aussi pour tous, pour l'aspect financier, il faut le dire. Ils se nourrissent de notre sous-sol. C'est notre or qui leur sert de change. Il faut pas... Il faut dire que... au finish, on se demande... Si c'est un continent, en fait. Moi, j'en arrive à me poser cette question parfois. Parce que, entre deux, tu as oublié de parler du hard, qui dépend aussi de la Russie. Mais finalement, de quel droit ils peuvent se prévaloir pour dire qu'eux, ils sont les dominateurs du monde? Je pense que ça fait déjà un moment que tout le monde commence à se dire, mais non, ces gens ne sont dominateurs de rien du tout. Moi, ça fait 15 ans que je le chante. Maintenant, c'est bien que ça se voit. Ils ont déclenché une guerre. Il faut dire que c'est eux qui l'ont déclenchée. Comme d'habitude, ils sont chez eux, ils n'en ont rien à cirer des autres, mais ils déclenchent des guerres parce qu'ils pensent qu'ils ne seront pas touchés. Sauf que cette fois-ci, ils seront touchés. Et nous ne sommes plus dans les années 60, les années 50, où après, ils vont se retourner vers l'Afrique. Non, l'Afrique est en train de se fermer à eux parce que nous avons aussi nos problèmes. Nous avons le droit de choisir nos partenaires. Nous avons le droit d'exploiter notre sous-sol. Aujourd'hui, ils vont faire exactement ce qu'on va leur demander.
D'accord. Et juste pour terminer cette question-là, est-ce que vous, en tant que femme capitaine d'entreprise, en tant que capitaine d'industrie, est-ce que vous avez déjà subi ce genre de pression pour ne pas coopérer avec la Russie, ou vous connaissez autour de vous des gens qui ont subi les mêmes pressions?
Ah non, personnellement, moi je les ai subis personnellement plusieurs fois. Hein. Je les ai subis en 2018, en 2008, pardon. En 2008, il faut dire que je suis, bloqué bancaire depuis 2008. Et mon entreprise est donc cette mutation incompréhensible du monde qui aujourd'hui préfinance les multinationales. Je préfinance les travaux des multinationales. Elles me payent après. Mais je suis quand même bloqué par les banques. Maintenant, depuis 2008, hein, et parce que j'ai refusé, parce que mon entreprise, ils ont compris que mon entreprise allait être stratégique pour le pays, ce qui est vrai, ce qui a été démontré par après. Et ça, c'était en 2008. Nouveau blocus, ça c'est 2022. Déjà il y a eu Sochi où ils m'ont totalement empêché de travailler avec les multinationales qui devaient arriver pour sauver des industries du Cameroun. Donc je subis, mais seulement moi je ne subis pas la pression, je suis prête à la contrecarrer jusqu'à à ma dernière goutte de sang. Alors moi je ne subis pas cette pression. Je ne suis pas prête à accepter de subir cette pression. Les chefs d'entreprise qui veulent subir cette pression sont ceux qui risquent de fermer. Et ça va arriver très vite et je continue à faire appel à ces chefs d'entreprise. Je vous assure, c'est le secteur privé qui a les choses en main. Nous devons prendre les choses en main. Arrêtez d'avoir peur. Si moi je suis une femme, je n'ai pas peur. Pourquoi vous les hommes, vous avez peur? Vous êtes quand même majoritaire. Pourquoi vous avez peur? On nous ouvre les portes pour tout. Et nous voulons les fermer. Non, à un moment donné, il faut que les hommes africains se lèvent et qu'ils se disent « stop, ça suffit ». Le jour qu'ils vont dire « stop », tout va s'arrêter.
D'accord. Alors là, nous passons à la troisième question. Le Cameroun participe aux activités de BRICS+. Donc les BRICS, ils sont formés par la Russie, le Brésil, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud. Et BRICS+, c'est le format qui permet l'élargissement de cette organisation. Donc, il y participe dans un moment qui est crucial parce que ce groupe-là envisage de créer une monnaie unique, une monnaie commune, pas unique, mais une monnaie commune entre ces pays. Est-ce que vous pensez que, justement, cette monnaie commune et intégrer les BRICS pourrait justement apporter un plus au pays, au Cameroun, mais aux pays africains et aussi aux industriels qui va leur permettre quand même de se libérer du dictat, comme vous l'avez expliqué, des pressions ou des sanctions du dollar ou de l'euro.
C'est indéniable, hein, c'est indéniable. Et moi, je salue la géopolitique et la géostratégie du président Poutine, qui, depuis... je rigole parce que ça fait 25 ans que personne ne le voit arriver et qu'il met cette politique en place. Au Cameroun, par exemple, on a, quand on parle des BRICS, on a la China Exim Bank qui est entrée au Cameroun depuis pratiquement 10 ans à travers une banque et qui, petit à petit, en a pris pratiquement le contrôle. Ça veut dire qu'on a déjà les BRICS qui sont présents en Afrique centrale parce que quand on a pris le contrôle d'une telle banque au Cameroun, on a pris l'Afrique centrale. Et une telle monnaie, donc, je pense que la préparation est très bien faite, le timing est à point nommé parce que c'est l'Afrique du Sud qui prend le relais
absolument,
à la tête des BRICS pour le prochain mandat. Je pense que l'idée n'est pas du tout folle. Ceux qui pensent qu'elle est folle, je pense qu'ils devraient réfléchir à 300 fois avant de donner une réponse. Parce que cette monnaie unique est ce qui va nous sortir d'affaires. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'Afrique centrale, nous, le Cameroun, l'Afrique centrale, la zone CEMAC, nous avons changé, pas encore de monnaie, mais nous imprimons notre argent aujourd'hui chez nous. Chez nous. Mmh. Les nouveaux billets, je les ai collectionnés, je les ai ramenés. On les imprime en Afrique centrale. Quelque chose a changé quand même, Kamal. On n'imprime plus en France, on imprime en Afrique centrale.
D'accord. L'autre question, c'est que donc le processus de la création et de la mise en place de l'ASLECAF, c'est la zone de libre-échange africaine, qui aspire à une économie africaine de plus en plus intégrée, notamment au niveau commercial et industriel. Ça arrive justement à ce moment où les BRICS veulent lancer une monnaie commune. Et est-ce que l'Afrique avec son poids et les BRICS avec leur poids aussi ne serait pas une chance justement pour donner une liberté aux pays africains et sortir du diktat du franc CFA et pouvoir finalement se libérer comme l'a fait tout à fait la Russie depuis le début de l'opération spéciale en Ukraine, en adossant le rouble à l'or et en l'adossant aux matières premières et à l'énergie.
Voilà.
Qu'en pensez-vous?
Le Nigeria, déjà, il faut dire que, moi je dis, quand on regarde un peu l'histoire, hein, quand on connaît l'histoire industrielle de l'Afrique, le Nigeria, déjà, n'est plus soumis à cette forme de dictat-là. On peut appeler nos monnaies comme on veut. Le Rwanda, il y a beaucoup de pays. Il n'y a que l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui traîne encore la patte, qui pourrait être un tout petit peu un problème par rapport à cela, même au niveau de l'ASLECA. Aujourd'hui, même en créant les made in dans chaque pays africain, on peut faire des échanges sans avoir besoin de toucher à la monnaie aujourd'hui.
D'accord. Alors, c'est-à-dire avec l'ASLECA, comme une forme de troc.
Voilà, une forme de troc entre les pays. Parce que le Nigeria, il va pas. Le Naira aujourd'hui est plus fort que le CFA, qui l'aurait cru. Alors, je pense que c'est entre... Je parlais du timing tout à l'heure. Mm-hmm. Et je pèse bien mes mots. Tout a été pensé de façon très, très, très précise et chirurgicale. Et ils ne font que aider ce timing à se mettre en place. Mm-hmm. Quand ils font ces pressions, tout doucement, sans s'en apercevoir, les choses sont en train de se mettre en place naturellement.
D'accord. Parce que l'Afrique, quand même, l'Afrique, le monde occidental dépend énormément des matières premières africaines. L'énergie, l'or, tous les matériaux stratégiques. Et donc, à votre avis, il ne sera pas très difficile, justement, d'avoir un minimum de courage.
On se rappelle il y a 60 ans, quand il y a eu quand même une forme de cette crise en Europe où on a vu des bateaux européens se déverser en Algérie par centaines. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui ce sera plus possible de se déverser en Afrique par centaines. Ils dépendent de nous, ils dépendent de la Russie, ils dépendent de tout le monde au finish. Mais il y a un moment où il va falloir qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils se mettent au travail, que la colonisation, ça n'a pas donné, ça ne tient pas. Moi, mon village a été bombardé au napalm. Mmh. Et donc, quand je parle, quand je suis en colère, bien que marié en français, c'est ça qui souvent étonne, je leur dis des vérités. Et s'ils m'écoutaient depuis, ils sauraient qu'il faut changer de pratique. On est habitué à ces pratiques. On sait d'avance comment ils vont réagir. Mmh. Alors, il faut qu'ils changent quand même. Il faut que ça change. Il faut qu'eux-mêmes, ils pensent, ils songent à eux-mêmes. Là, c'est eux qui sont en danger actuellement. Mais ils continuent à faire croire au monde entier que non, nous ne sommes pas en danger, nous sommes les maîtres du monde. Non, c'est du blablabla. Bla, bla. Bah, ils ont interdit la Coupe du Monde à la Russie. Finalement, elle a été organisée au Qatar. Mais qui l'a organisée? La Russie.
Ouais.
Personne n'en parle.
Absolument.
Personne n'en parle.
Ouais, ouais.
La Coupe du Monde a été organisée par la Russie
par le
au
même
Qatar,
comité, par les membres du même comité qui a organisé.
Pourtant, ils disent qu'ils ont interdit l'organisation de cette Coupe du Monde à la Russie.
Ouais. Et paradoxalement, c'est la meilleure Coupe du Monde de tous les temps.
De tous les temps.
Organisée essentiellement par le même comité qui a organisé la Coupe du Monde de 2018.
Quand le Qatar est venu, et c'est sous leurs yeux, moi j'étais à Saint-Pétersbourg, quand le Qatar a remis les clés de l'organisation de la Coupe du Monde à la Russie, ils n'ont pas su réagir. Moi je ne sais pas ces gens, je me demande parfois, mais est-ce que ce n'est pas eux qui sont totalement largués, mais complètement quoi?
Bon, là, on arrive à la dernière question de la première partie de notre entretien. Donc, pour continuer sur le même élan, l'Occident, en plus des sanctions et des pressions, il y a un énorme vacarme, un tintamarre de désinformation pour diaboliser la Russie et derrière la Russie même la Chine. Et les faire passer pour les prochains gourous qui vont coloniser, entre guillemets, l'Afrique ou la martyriser. Et en même temps, en essayant de dédouaner, et que ce soit l'histoire de l'Occident en Afrique ou les actions actuelles. Comment voyez-vous ce paradoxe entre les deux?
Je pense qu'ils devraient d'abord savoir que le mot colonisation est banni. Hein. Ce mot, il est banni depuis un certain temps. Parce que c'est ce qu'ils essaient même encore de faire quand ils déclenchent cette guerre aux portes de la Russie. Parce qu'il faut dire que les Africains ne sont plus... c'est eux-mêmes qui ont créé l'ère d'Internet et tout le reste. Mais aujourd'hui, quand on regarde Internet aujourd'hui, les Africains en ont fait plutôt un objet de jeu. C'est devenu un objet de jeu. Eux, ils pensaient en faire un objet d'information jusqu'à ce que nous, on décide, certainement avec la Russie, avec l'accompagnement de la Russie, d'en refaire un objet d'information. Aujourd'hui, la désinformation ne prend plus. Elle ne prend plus parce que beaucoup d'Africains ne regardent pas ces chaînes de télé, France 24 et tout ça, ça ne nous sert plus, ça sert à rien, personne ne regarde. Nous préférons regarder nos chaînes nationales pourries comme elles sont. Et c'est surtout le mindset. Hein, le mindset africain a changé. Et on a compris que les études même qu'on demande aux Africains de faire, qu'on demandait aux Africains de faire, n'étaient pas adaptées à notre système. Aujourd'hui, quand j'entends au Cameroun parler de l'import substitution, même par rapport à l'éducation, ça veut dire que beaucoup de manuels scolaires ne vont plus être importés d'Europe. Donc, même le système d'éducation est en train de changer. Donc, la manipulation, les petits termes, la colonisation, ils veulent se passer, aujourd'hui, ils se font passer pour les pays martyrisés. C'est bien. La situation a changé de camp.
Ouais, ouais.
Si c'est eux les martyrs aujourd'hui, ben tant mieux. Tant mieux, ça veut dire qu'on est en train de progresser.
Et ça, je vous rappelle, il y a un propos qui a été tenu par Gérald Darmanin cette semaine, et où il disait au journal Le Parisien... Mmh. La France ou l'Europe vont subir encore une énorme vague d'immigration africaine et asiatique parce que ces deux côtés, ils sont en train de se développer. Et comme ils vont se développer, ils vont certainement vouloir voyager et envoyer leurs enfants. Donc moi, j'étais un peu surpris par cette tautologie.
Voilà, c'est-à-dire
que l'Africain, qu'il soit pauvre et sous-développé, où il soit riche et développé, sa vocation, c'est toujours de partir en Europe, de quitter son pays, de fuir son pays, de partir en Europe.
Moi, j'avais envie, quand j'ai lu ça, j'avais envie de poser une question à M. Darmanin. M. Darmanin, est-ce que vous êtes sûr que... Est-ce que vous avez une bonne lecture de la situation? La France est déjà colonisée aujourd'hui. Qu'est-ce qui appartient encore réellement à la France? Moi, j'aimerais qu'on me dise, hein, sérieusement... Que ce soit les aéroports, les ports, les ligues de football, tout a été acheté par les Chinois, les Africains, hein, les Chinois, les Africains, les pays arabiques. Qu'est-ce qui appartient encore à la France, Monsieur Darmanin? Je voulais lui poser la question. Est-ce que vous n'êtes pas sûr que c'est une stratégie voulue par celui-là même qui a mis cette stratégie depuis 25 à 30 ans. Vous pensez que quand vous avez tué Kadhafi, vous avez fait un grand coup, bah, le coup, il vous revient aujourd'hui. Mmh. Et vous vous plaignez. Mais, et puis, dites la vérité, M. Darmanin. La France est économiquement surendettée depuis 30 ans. Ça, c'est la triste vérité. Ceux qui travaillent aujourd'hui en France n'auront pas de retraite. Parce que les retraités d'aujourd'hui même... Non, il n'y a plus d'argent dans les caisses pour payer ces retraités. Alors, qu'ils arrêtent avec le tintamarre qu'ils font là, ces petits mensonges de faux intellectuels comme M. Darmanin, moi, je suis désolé pour lui. Il faut qu'il réfléchisse avec sa tête et non pas avec son nez.
Je vous remercie, Madame Chico. Et je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la seconde partie de l'entretien. À
Merci.
Tout de suite.
À tout de suite.
Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche sur Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission. En résumé de cette première partie, la situation stratégique a complètement changé dans le monde selon Audrey Chico, dans le sillage de l'opération spéciale russe en Ukraine. Maintenant, il appartient aux hommes d'affaires et aux industriels africains de bien analyser et comprendre la nouvelle dynamique mondiale s'ils ne veulent pas devenir ses victimes. En effet, pour Audrey Chico, la nouvelle donne offre des possibilités réelles d'établissement de partenariats gagnant-gagnant avec transfert de technologies effectifs, notamment avec la Russie et les autres pays du BRICS. La décision de ces derniers de créer une monnaie commune pour se détacher du système dollar-euro ne peut être que salutaire. Surtout pour les pays et les entrepreneurs africains qui cherchent à donner sens et vie à la zone de libre-échange et de coopération africaine. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Audrey Yetnachiko, chef d'entreprise camerounaise en industrie mécanique de précision. Madame Chico, je vous resalue. Et ma première question, donc, ça fait au moins 15 ans ou 16 ans que vous coopérez avec des industriels ou des partenaires russes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, expliquer à nos auditeurs, pourquoi vous avez choisi justement la Russie?
Ben, disons que déjà, il faut savoir que je suis sankariste, hein, je suis sankariste au fond de l'âme.
Sankariste, ça veut dire, ça fait référence à Thomas Sankara.
À Thomas Sankara,
Thomas Sankara, le chef d'État
révolutionnaire qui a été tué. Et de tous nos chefs d'État d'ailleurs qui ont été tués, Lumumba et Oumyobé chez nous. Et je suis une fan du président Paul Biya parce que, en dehors du président Poutine, aujourd'hui. Je pense que le président Biya est l'un des rares qui, en géopolitique et en géostratégie, soit quand même au fait. Parce que, étant le plus âgé aujourd'hui, il peut quand même parler de la situation mondiale. Mmh. Alors, moi, le petit souci que j'ai avec tout cela, c'est l'histoire. Est-ce que l'histoire va nous enseigner? Est-ce que l'histoire va nous permettre de régler, de mener des réglages comme il le faut? Moi, je me suis retournée vers la Russie par rapport à l'histoire. Et quand je me retournais vers la Russie, mais il a fallu 2008, hein, il a fallu qu'on me mette les premières pressions pour que je comprenne que, ah non, il me faut un allié de taille. Je me suis retournée dans l'histoire et j'ai vu, c'est là que j'ai constaté qu'en réalité, tous les pays africains qui avaient émergé avait eu pour soutien la Russie. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Que ce soit la Libye, c'était la Russie. Que ce soit en Afrique du Sud, tous ces pays-là, c'est la Russie qui était derrière. Et je me suis dit, dans ce cas, il faut se retourner vers la Russie. Et quand je commence à venir en Russie, tout le monde me prend pour une folle. Mais moi, j'arrive en Russie, la première chose qui m'étonne, c'est que tout le monde est prêt à me donner la technologie. Ce que les autres me refusent, tout le monde est prêt à me le donner en Russie. Je me dis, mais peut-être qu'il y a un piège quelque part. Mais non. Maintenant, ça fait 16 ans, hein, il faut dire. Ça a pris un peu de temps parce que je pense que j'ai commencé par le mauvais bout. Je me suis dit, il faut passer en force. Je n'ai pas suivi la cadence. Mais quand j'ai commencé à suivre la cadence de la géopolitique du président Poutine, mes relations d'affaires avec la Russie ont beaucoup évolué et ont beaucoup aidé mon entreprise. C'est grâce à ces relations que mon entreprise n'a jamais failli. On a continué à évoluer contre vents et marées. À chaque fois, tout le monde se demandait, mais comment elle fait pour tenir debout? Mais c'est grâce à cette coopération. Parce que la matière que je prends en Russie, elle me coûte pas cher, ils me la donnent. La Russie me donne des technologies, j'utilise des nouvelles technologies et je vais donc plus vite dans le travail. Je libère plus vite la majorité. Il faut dire que je suis le centre tournant de toute l'industrie camerounaise. Et j'arrive quand même à libérer et sous-régional. J'arrive à libérer tout le monde. Parfois, pas toujours dans les délais, mais j'arrive quand même à le faire. Donc, le partenariat Russie-Afrique est gagnant-gagnant dans tous les cas de figure. Quel que soit lambda, faites toutes les stratégies mathématiques, vous allez trouver que cette stratégie sera toujours gagnant-gagnant pour les uns et pour les autres.
Et est-ce qu'actuellement, avec votre présence actuelle en Russie, vous arrivez justement à élargir ce partenariat pour d'autres secteurs en dehors de la mécanique de précision et de la maintenance industrielle?
Oui, parce qu'il faut dire que depuis l'année dernière, je suis installé en majeure partie à Moscou. Alors, aujourd'hui, on s'est élargi vers le secteur médical. On a la mésothérapie, on est en train de l'élargir également. On a le secteur du sport. Parce qu'il faut dire que...
Nous allons en parler vers la fin.
Voilà. Donc on a également les domaines d'agriculture, de mécanique. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Mon portefeuille s'élargit. Donc, mon portefeuille n'est plus pour mon entreprise. En réalité, il est pour non seulement les autres entreprises camerounaises, mais les entreprises de la sous-région africaine. Mm-hmm. Nous en sommes arrivés aujourd'hui jusqu'au Hard. Donc, c'est hier, on a eu une nouvelle entreprise au niveau quand même supérieur, la plus grosse de Russie pour ce qui est du soft et du hard au niveau d'Internet, ce qui va permettre de sécuriser non seulement les informations de tous les secteurs, parce que cette entreprise fait quand même tous les secteurs, aussi bien bancaires, étatiques que pétroliers. On est en train d'évoluer, et je dis de plus en plus, on est là, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, on assiste au moins à 2 salons par semaine, et aux salons suivent les formations, c'est pour ça que j'ai obligé d'être plus ici que là-bas, parce que j'ai déjà formé l'équipe qui est au Cameroun, qui elle se meut tranquillement. Et donc ici, j'ai aussi cette équipe-là qui est en train de travailler pour que toutes les autres entreprises qui veulent bien travailler avec des entreprises russes puissent trouver le bon équilibre, parce qu'on a l'exemple, parce qu'il faut toujours partir d'un exemple. Mm-hmm. L'exemple donc de réussite, c'est que MSMI, nous, ça fait 15 ans qu'on le fait et qu'on avance. Mm-hmm. Donc, les secteurs grandissent de plus en plus, parce que je dis aujourd'hui, je croule sous la demande africaine comme russe. Donc, les prochains sommets, je pense qu'il y aura des surprises étonnantes.
Sommet, quel sommet vous voulez parler?
Les deux sommets qui vont se tenir à
Saint-Pétersbourg. D'accord, justement, je voulais vous poser justement la question concernant ça. Donc, si j'ai bonne mémoire, vous avez déjà assisté au Forum économique Russie-Afrique à Sochi.
À Sochi, et j'ai assisté au Forum économique de Saint-Pétersbourg.
D'accord.
Et là, j'ai déjà mes invitations pour les deux.
Alors, justement, c'est par rapport à ces deux-là, à votre avis, à quoi vous vous attendez dans le contexte géopolitique et économique mondial actuel? Et une question personnelle, si c'est possible de répondre, bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Est-ce que pour votre entreprise et vos affaires, vous attendez à des avancées énormes dans ces deux prochains forums?
Oui, je pense qu'il y aura des avancées énormes. C'est pour ça que je parle de surprise, parce que en même temps, vous savez, en géopolitique ou en géostratégie, moi je ne parle pas géopolitique, géostratégie, on ne donne pas toujours ses clés, ses balles longtemps à l'avance comme ça. Mais je pense qu'il faut que le monde entier s'attende à voir en grand format la coopération Russie-Afrique. Mmh. Dans des deux sommets, je précise bien les deux. Les deux, ça va être surprenant pour ceux qui ne sont pas préparés. Mais pour nous qui avons commencé à y travailler depuis longtemps, ce n'est que de bonne guerre.
D'accord. C'est une analyse ou c'est des informations?
C'est des informations, c'est une information à moitié. Donc, on va y revenir.
Ok, laissons ça. Voilà. Laissons ça pour la surprise.
Voilà.
D'accord. Alors, la question suivante. Le 5 février est l'anniversaire de l'université ou de la création de l'université de l'amitié entre les peuples, fondée à Moscou en 1960 et baptisée Patrice Lumumba, l'un des grands chefs d'État révolutionnaire africain,
le premier
assassiné bien sûr, parce que défendant les intérêts de son pays et dérangeant les intérêts de ceux qui voulaient que l'Afrique reste sous domination. Alors, vous êtes étroitement lié à cette institution. Alors, quelles sont les possibilités scientifiques et éducatives offertes par cette coopération avec l'établissement?
Les possibilités sont vraiment énormes. Il faut dire qu'aujourd'hui, par exemple, installée à Moscou, mon assistante, elle est de Rudéenne. Elle est de Rudéenne et elle me donne une grande satisfaction parce que à Rudéenne, on a commencé l'implémentation tout doucement et on est en train d'évoluer. on évolue jusqu'au point d'arriver quand même au nucléaire aujourd'hui.
Au nucléaire civil ?
Civil, oui, au nucléaire civil. Nucléaire civil, bien sûr, la Russie n'est pas... Mais au moins, quand on arrive à faire ce genre de proposition, il y a 10 places seulement pour le Cameroun déjà, pour le nucléaire civil. Mmh. Bon, maintenant, il faut qu'on saisisse cette chance, qu'on n'ait pas peur que les parents... Parce que la désinformation, quand on dit nucléaire, justement, on fait bien de préciser civil, eux, ils voient tout de suite, oh, la bombe. Non, 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 c'est le nucléaire civil. Et ça évolue lentement, mais sûrement. Parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants et le président Poutine facilite de plus en plus l'intégration des étudiants africains. Parce que demain... C'est pour ça quand je dis, quand ils sont en train de dire que le président Poutine veut envahir l'Afrique.
Veut coloniser, a dit M. Hollande.
L'Afrique. Non, le président Poutine prépare les Africains depuis pratiquement 60 ans à prendre les rênes de leur continent. L'université Patrice de Lumumba, c'est 60 ans. Mmh. C'était pour qu'on puisse prendre en main notre destin. Il forme des étudiants qui rentrent depuis 60 ans, mais qui sont bloqués. Généralement, quand ils rentrent, ils n'ont pas d'emploi parce qu'on dit « Non, 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 tu viens de la Russie. Non, 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 on n'en veut pas. » Parce qu'on sait qu'il va ramener une autre mentalité. Mais avec de plus en plus...
Je me rappelle, même en Algérie, le pays dont je suis originaire,
voilà.
Quand les gens reviennent de l'Union soviétique, injustement, comme ça, on leur colle l'étiquette qu'ils ne sont pas bien formés.
Voilà.
Alors que,
voilà. Alors que c'est les
ils
meilleurs.
Ont prouvé, ouais, voilà. Ils ont prouvé que c'était...
Donc, aujourd'hui, cette coopération, disons que je me suis mise un tout petit peu en retrait depuis quelques temps, parce que l'équipe ayant changé... les jeunes ne comprennent pas forcément toujours les données géostratégiques, mais je pense que avec le nouvel élan que le président Poutine est en train de donner et les orientations, on va se remettre sur la bonne pente et les prochaines rentrées, en tout cas, sont en train de se préparer là. Je pense que cette université a été bien pensée et elle existe, c'est l'une des rares qui existe pratiquement dans, je crois, 7 régions de la Russie. Donc, et elle a tous les secteurs, du médical, c'est pour ça que
Il y a beaucoup de chefs d'État ont été formés à Rouen.
De plus en plus.
Y compris Chavez.
De plus en plus.
Hugo Chavez du Venezuela.
De plus en plus. Parce que. Je pense que même au niveau des ministres aujourd'hui, quand on regarde la diplomatie africaine, on va se rendre compte que beaucoup ont. Soit ils ont fait totalement leur formation en Russie, soit à un moment, ils sont venus se former. Donc, cette coopération, elle continue d'avancer. On prend le temps, le timing. Je continue de parler de ce timing-là, c'est un timing. Il faut simplement qu'on le suive et qu'on ne se lasse pas de D'accord. parler, de continuer à répéter les mêmes choses.
D'accord. Bien, alors je voulais finir cet entretien avec une surprise pour nos auditeurs, vous concernant, parce que j'aimerais bien informer nos auditeurs que Madame Yetna Chico et aussi patronne d'un club de football, c'est la Dynamo de Douala. Ça fait 2 ou 3 mois, je crois, que vous avez été élue présidente de Dynamo de Douala. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Et puis aussi, est-ce qu'il y a une coopération avec la Russie dans ce sens? Hein, vu que la Russie et le Cameroun ont eu une très très belle histoire durant le mondial de 1990 en Italie, avec le sélectionneur Valéry
Nepomniachtchi,
qui a conduit la sélection camerounaise au quart de finale pour la première fois de l'histoire de l'Afrique.
Alors, disons que, très belle... surprise parce que en réalité j'ai été élue le 7 mai à l'unanimité contre toute attente, moi-même je ne m'y attendais pas à la Dynamo de Douala, pour redresser la Dynamo de Douala. Sauf que quand je commence la coopération justement avec Moscou, les mêmes colons qu'on connaît depuis toujours ont décidé de me pousser vers la porte de la Dynamo de Douala. Bah, je me suis dit, ben bon, ok, tu as déjà les pieds dans le football. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais fait ma thèse à l'époque sur le football.
D'accord.
Alors, et j'ai donc créé mon propre club qui s'appelle Botafogo de la Grande Sanaga Maritime. C'est pas une réplique de la Dynamo de Douala, non. Mais simplement, je ne voyais pas comment, même dans le football, il fallait qu'on apporte ce genre de diktat. Il ne faut pas que le football camerounais se professionnalise. Il ne faut pas que. Alors, j'ai créé mon club et je continue donc de bénéficier de des propositions qui m'ont été faites par la Russie, donc par Moscou notamment, par rapport au football. Nous avons un projet aujourd'hui qui est énorme. Avec Botafogo de la Grande Sanaga Maritime, je suis en train d'apporter une certaine révolution dans le football camerounais. Parce que quand on dit professionnalisation, il faut dire que c'est une grande première au niveau de la FIFA. Quand j'ai démissionné de la Dynamo de Douala, tout le staff technique et tous les joueurs ont démissionné le lendemain. Ce qui n'a jamais été vu, la FIFA l'a dit d'ailleurs. Parce que quand j'ai recommencé, les joueurs sont partis de la deuxième division pour recommencer en quatrième division. Des professionnels, vous imaginez ça, des professionnels. Ça veut dire qu'ils ont confiance en moi, ils ont confiance en la Russie, principalement, ils ont confiance en la Russie pour se professionnaliser.
D'accord.
Et cette coopération va bon train. On a, pour la saison qui commence, une équipe formidable. Quand on regarde sur Internet, tout le monde se demande mais comment est-ce qu'ils font. Non, on est suivi par des partenaires russes dans le milieu du football.
Ce qui est intéressant, donc, parce que je le dévoile à nos auditeurs, j'ai discuté avec Madame Chico plusieurs fois, c'est que vous voyez le football pas comme une chose en soi, mais comme un tremplin pour développer beaucoup de choses autour. Supposons par exemple l'industrie du textile, parce qu'il faut fabriquer les maillots, il faut fabriquer les survêtements et la chaussure.
Exactement, tout en fait en réalité, c'est-à-dire quand on dit qu'on
c'est un projet, c'est pas le football en tant que tel,
c'est pas le football en
courir
tant que tel.
Dans un stade, mais c'est une locomotive pour développer beaucoup de secteurs autour, juste une locomotive qui lance
Exactement. Comme ici en Russie, un club de football n'est pas qu'un club de football. C'est un complexe multisport qui a ses infrastructures, qui a tout, qui fait tout par lui-même. Et je dis, le plan directeur d'industrialisation, c'est moi qui suis quand même à la base, à l'origine du plan directeur d'industrialisation. Je le connais mieux que quiconque.
Donc, c'est le plan d'industrialisation du Cameroun
proposé au gouvernement. Et une partie de ce plan directeur d'industrialisation, dans l'une de ces parties, il y a l'infrastructure. Or, le sport, à travers le football qui draine énormément, le football va réveiller même d'autres sports au Cameroun. Parce que quand je regarde en Russie, j'essaie de refaire la même chose, de reproduire la même chose au Cameroun. On est en train de voir aujourd'hui le volleyball qui est en train de se réveiller, le lambudo qui est en train de se réveiller, des sports, même traditionnels, la lutte traditionnelle est en train de se réveiller. Et même à la Dynamo, ce qu'ils ont voulu m'empêcher de faire avec Botafogo, je suis là, j'ai toutes les libertés de le faire. D'être mon propre équipementier dans quelques temps, ou alors de créer des jeunes. Il y a des jeunes qui sont là, qui sont en train de se former. Je leur demande de rentrer pour faire du textile. On a le coton, on a du très bon coton.
Des chaussures.
On a des tanneries.
La construction aussi, des infrastructures.
Mais voilà, des infrastructures.
Le béton, l'acier.
L'acier et tout
les
ça.
Les techniques de construction.
On a des tanneries, on peut fabriquer nos propres godasses et tout. On a des jeunes qui ont été formés il y a 30 ans. En Chine, pour fabriquer des ballons et tout, mais qui n'ont pas encore commencé à se déployer sur le terrain. Moi, pour moi, le football, c'est ce grand boulevard-là qui va nous permettre, à travers la coopération Russie-Afrique, d'implémenter sur le terrain tout ce qui peut être développement industriel. Parce que je reste industriel dans l'âme. Il faut dire que je pense industrie essentiellement.
Absolument, absolument.
Donc, pour moi, tout doit être transformé sur place. On a tout. Pourquoi est-ce qu'on va aller chercher ailleurs tout ce qu'on a ? Il faut qu'on transforme ce qu'on a sur place. Et c'est ce que la Russie nous apprend depuis déjà pratiquement 40 ans. Et je pense que ça prend. J'ai déjà apporté toutes les preuves possibles et imaginables. Aujourd'hui, il y a, en fin 2022... j'ai quand même été plébiscité pour être en Afrique la représentante du secteur pétrolier, pétrole, oil and gas au Tatarstan, à Kazan. Ce qui est aujourd'hui, l'État du Cameroun a suivi directement pour que ce soit mon entreprise qui le fasse. On a des partenaires de haut niveau à cet endroit-là. Pourquoi pas dans le football aussi? Il faut
d'autant que plus que vous le pensez comme juste une locomotive.
Une locomotive.
C'est pas le football en tant que tel, en lui-même.
Je réfléchis un peu. Vous savez, c'est bien de parler de Valéry Nepomniachtchi. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué mon esprit en 90. Et d'ailleurs, je me suis détourné du football après qu'il soit parti parce que, effectivement, de toute façon, tout est parti en vue au Cameroun après Valéry Nepomniachtchi. Ce monsieur-là avait apporté un autre esprit au football camerounais. À l'équipe nationale, dans l'équipe nationale, un autre esprit. Et je me suis inspiré un peu de sa façon de faire les choses, dans le calme, en se mettant, en s'entourant de professionnels locaux, mais avec une main de fer. En 90, il a démontré que les pays africains pouvaient aller très loin. D'ailleurs, si ça n'avait pas été encore leur géopolitique stratégique à la con, on serait arrivé à la finale en 90. Mais ils nous ont stoppés au quart de finale. Ils nous ont stoppés carrément, ça le monde entier le sait, qu'ils nous ont stoppés par tous les moyens. On serait arrivé au minimum au demi-finale en 90, voire en finale. Et tout de suite après, tout le monde est étonné. Voilà Valéry Nepomniachtchi qui devient subitement un espion. Il faut le faire partir. Bon, moi, je dis toujours, l'histoire nous enseigne, l'histoire nous permet. Il faut savoir d'où on vient pour pouvoir savoir où on veut aller.
Absolument.
Voilà.
Je vous remercie, Madame Chico. Je salue en vous votre courage. La femme qui a commencé petit, mais qui voit grand. Et nous vous espérons beaucoup de succès dans votre travail et dans votre coopération avec la Russie.
Ben, j'espère aussi, moi j'attends surtout de Spoutnik, parce que je pense que ça piétine aussi à ce niveau. J'espère que je veux peut-être pouvoir apporter quelque chose pour l'information, pour contrer la désinformation avec le groupe Spoutnik et tout. Moi, je suis ouverte à tout et je suis prête. En plus, je suis déjà prête avec des journalistes et tout ce qu'il faut. Parce qu'il faut absolument qu'on arrive à contrer aussi cet aspect-là de façon positive. La Russie, l'Afrique, il nous faut nos propres canaux d'information.
D'accord. Merci beaucoup, madame.
Merci.
Et j'espère vous retrouver dans un autre rendez-vous. Et merci encore une fois pour ce passionnant et très punchy.
En Afrique, on dit une fois devient 100 fois. Voilà, je pense qu'on est parti pour. Merci
D'accord,
beaucoup.
D'accord, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette édition spéciale dans laquelle nous avons eu le plaisir de recevoir Audrey Yetna Chico, chef d'entreprise camerounaise en industrie mécanique de précision. Le partenaire russe est prêt à fournir la technologie aux pays africains et dans tous les domaines sans exception, note Madame Chico au micro de Radio Sputnik Afrique. Cela s'applique également au nucléaire civil qui serait un moyen fabuleux à même de booster l'industrie africaine et de fournir l'énergie et l'eau dont elle a besoin. Dans ce sens, elle informe que le sommet des chefs d'État et le forum économique Russie-Afrique qui se tiendront en juillet de cette année en Russie comporteront beaucoup de surprises. Leur nombre et leur ampleur pourraient être étonnants. Enfin, Audrey Chicot estime, comme par le passé et encore plus aujourd'hui, l'université de l'amitié entre les peuples fondée à Moscou en 1960 et baptisée Patrice Lumumba est appelée à jouer un important rôle dans l'accompagnement scientifique et technologique du partenariat russo-africain. C'était Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir.
L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.